Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour à tous et bienvenue au podcast Diplonate où on parle d'enjeux internationaux et sociaux. Cette semaine, on va parler des conditions des travailleurs étrangers temporaires au Canada. On va notamment aborder les difficultés, la précarité, mais aussi les abus que vivent ces individus, notamment les personnes migrantes, mais pas seulement que. On va le voir au cours de cet épisode. Pour aborder ces enjeux, j'ai invité Jasmin Chabot avec moi. Alors bonjour Jasmin.
Bonjour.
Donc, tu travailles chez Action interculturelle en tant que coordonnateur pour le projet Ensemble on s'aime. Et puis, c'est un organisme, Action interculturelle, qui travaille auprès des personnes de toutes sortes, je crois.
Mais en fait, Action interculturelle, ça fait 30 ans qu'ils œuvrent dans le milieu. Je pense qu'ils sont partis même à l'Université de Sherbrooke. Et donc, ils ont des programmes en employabilité, aussi en éducation numérique pour les personnes âgées. Il y a un programme de Les Voix de la diversité pour que les jeunes puissent s'exprimer sur les enjeux qui les touchent. Aussi des communautés interscolaires, des communautés scolaires interculturelles aussi. Donc, plusieurs projets. Et on a deux projets que je coordonne, Ensemble on s'aime avec le gouvernement fédéral et les Tisserands avec le gouvernement provincial pour donner des services aux travailleurs étrangers temporaires.
OK, donc c'est coordonné autant avec le fédéral qu'avec le provincial.
Oui, mais en fait, le projet Ensemble on s'aime a commencé il y a un peu plus que 2 ans et demi, qui était financé par le gouvernement fédéral à travers le bailleur de fonds Immigrants Québec. Et on est rendu maintenant à peu près une trentaine d'organismes à travers le Québec qui offrent des services, que ce soit de soutien informatif, aussi des services comme des activités, un peu de loisirs pour que les travailleurs puissent faire autre chose que juste travailler et dormir. Et le gouvernement provincial qui est rentré aussi avec un projet pilote. On est 4 organismes à travers le Québec qui déployons des services auprès des travailleurs pour surtout les travailleurs avec un permis de moins d'un an, donc dirigés vraiment plus vers le secteur agricole.
OK, je vois. Puis toi, concrètement, ton travail, c'est quoi chez Action interculturelle? Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours?
Bien, là, j'ai une équipe de 7 personnes. On sillonne toute l'Estrie. À la fois, on recueille et on va contacter les travailleurs à leurs différents endroits, soit les épiceries, soit auprès des employeurs. Dans les rencontres aussi qu'on peut faire juste par hasard, parfois, en les rencontrant, on va aussi organiser des activités pour eux. Et il y a beaucoup de suivi individuel lorsque des travailleurs ont des problématiques ou des questionnements. Donc, ils vont nous appeler, ils vont nous contacter. On met en marche des services de soutien dépendant des différentes problématiques qu'ils peuvent avoir.
Puis, tantôt, tu me parlais, avant qu'on commence, tu me disais que tu avais eu un long parcours avec les personnes étrangères, plus particulièrement les migrants saisonniers qui viennent pour travailler sur les terres agricoles ou sur les maraîchers. Est-ce que tu veux en parler un petit peu?
Bien, en fait, c'est un peu notre projet a commencé de mon expérience comme adolescent et comme jeune adulte à travailler sur les fermes maraîchères, fermes laitières aussi. Mon père était agriculteur. Donc, j'ai pu, des 15-16 ans, voir comment un peu le portrait de l'agriculture au Québec s'est transformé de petite ferme familiale à aujourd'hui. Beaucoup de conglomérats d'achat de fermes, des grosses exploitations agricoles avec, justement, maintenant, c'est des travailleurs étrangers temporaires qui vont venir soit de façon saisonnière ou même pour des contrats de 2 ans, là, pour venir prêter main forte. On a vu l'évolution, c'était souvent l'agriculture était réservée aux gens qui venaient de l'étranger, mais qui avaient on reconnaissait pas leur diplôme ou leur...
Donc, c'est une deuxième option, souvent.
Bien, en fait, c'était pour beaucoup de nouveaux arrivants, c'était la seule option d'emploi disponible, à part c'était faire le ménage ou aller travailler dans les champs, parce qu'on ne reconnaissait pas les diplômes. Même lorsque je suis revenu de voyage en 2003, je suis retourné travailler aux fermes où j'étais quand j'étais justement adolescent. Puis là, je pense que dans le champ, c'était tous des diplômés universitaires. Et j'étais le seul Québécois dans le champ. Alors qu'auparavant, quand j'avais 16 ans, c'était tous des Québécois qui étaient dans le champ.
Ah oui, c'était des diplômés universitaires. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des...
Bien, en fait, c'est parce que leur diplôme n'était pas reconnu. Là, il y a eu beaucoup d'avancées de ce côté-là. Puis la pénurie de main-d'œuvre, en fait, en sorte qu'on essaie d'incorporer ces gens-là pour que leurs compétences soient mises à contribution pour l'économie. Et donc, maintenant, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a plus nécessairement recours. Avant, c'est les gens qui venaient de Sherbrooke travailler dans les champs. Mais maintenant, on fait venir les travailleurs de d'autres pays pour. Ils vont rester sur les fermes. Donc, pour l'agriculteur aussi, c'est très pratique. La main-d'œuvre est juste à côté et est toujours disponible.
Plus accessible.
C'est ça.
Oui. Jasmin, j'ai vu ton nom pour la première fois dans un article de Radio-Canada qui parlait en fait du rapport d'un employé spécial de l'ONU qui avait enquêté sur les conditions des travailleurs étrangers temporaires au Canada. Donc, lui, il a fait le tour du Canada de Vancouver à Montréal en passant par Moncton. Puis, il avait été assez troublé par ce qu'il a entendu, par ce qu'il a vu, par les récits d'exploitation des personnes à qui il a parlé. Et donc, est-ce que toi, tu peux confirmer ses propos qu'il a dit? Il a notamment parlé d'esclavage moderne. On sait que la réalité n'est pas toujours très belle, très heureuse. Est-ce que tu as des exemples de ça?
Bien, premièrement, pour revenir sur le rapporteur de l'ONU, ce qu'il avait souligné, en fait, c'est qu'il y a des mécanismes dans le programme des travailleurs étrangers temporaires qui peuvent... créer des situations qui ressemblent à l'esclavage moderne, dont le permis fermé et souvent le manque d'informations de ces travailleurs-là. Donc, encore une fois, ce sont des cas d'exception, mais en général, le programme des travailleurs étrangers temporaires, du fait qu'il y a les permis fermés, du fait qu'il y a certaines conditions qui font en sorte que les travailleurs ont des droits, mais c'est très difficile pour eux de les faire valoir, ou les délais de traitement peuvent être énorme.
C'est quoi justement les permis de travail fermés?
Bien, un permis de travail fermé, lorsqu'un employeur a besoin d'un travailleur, il va faire une demande d'étude de l'impact du marché de travail auprès du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral va reconnaître que l'impact de ce travailleur-là sur le marché de travail ne va pas avoir une incidence négative. Donc, il émet un permis de travail et il y a aussi un certificat de sélection du Québec qui est émis pour ce travailleur-là. Mais ce permis de travail-là est ce qu'on a dit un permis fermé, puisqu'il restreint le travailleur à ne travailler que pour cet employeur-là et pas justement seulement pour cet employeur-là, mais l'employeur aussi doit demander des tâches spécifiques, un endroit spécifique. Donc, le travailleur, si l'employeur lui demande de faire des tâches qui sont à l'extérieur de son permis de travail, c'est aussi interdit, à moins de faire une demande pour une modification ou un changement de permis de travail. Mais aussi, si un employeur a plusieurs exploitations, il ne peut pas non plus transférer l'employeur. Donc, c'est vraiment une étude d'impact sur le marché de travail, c'est pour une tâche précise et à un endroit précis.
OK. Donc, le fait que ce soit fermé, c'est parce que l'étude a été faite sur l'employeur précisément, sur ce marché-là. Donc, il ne peut pas en sortir.
Oui. Sauf qu'il y a toujours des zones grises. Un travailleur peut avoir deux permis de travail fermés. Donc, c'est-à-dire, si un travailleur, pour des raisons X, Y, Z, perd son travail. En ce moment, on le voit beaucoup avec la récession. Il y a beaucoup de travailleurs qui arrivent pour travailler. Oups, il n'y a plus d'emploi parce que ça peut prendre jusqu'à 8 mois et peut-être parfois plus entre le moment que l'employeur fait sa demande et le temps que l'employé arrive.
Okay, donc,
la situation peut changer. Donc, on se retrouve avec des travailleurs qui arrivent à l'aéroport. Il n'y a même pas d'employeur pour venir les chercher parce que l'employeur n'en a plus besoin. Et là, le travailleur se trouve dans une situation où ce que, il n'a pas travaillé, il n'est pas couvert par le CNSST, il n'est pas couvert par rien. Puis tout ce qui est, s'il y aura des réclamations à faire auprès de son contrat de travail qui n'est pas respecté, ça sera aux petites créances. Puis pour ça, il faut qu'il soit en présence, puis il ne peut pas être représenté par un avocat. Donc, pour quelqu'un qui ne parle pas le français ou l'anglais, ça devient insurmontable, en fait, de pouvoir réclamer son droit là, vis-à-vis ça.
Oui.
Donc, pour le permis fermé, en fait, c'est que ça crée des situations où ce que pour que lorsqu'il y a une situation où ce que l'employé ne peut pas travailler, ça crée beaucoup de difficultés pour lui de se retrouver un autre emploi avec des délais allant jusqu'à 2 mois pour avoir une autre offre d'emploi, appliquer, avoir une autre IMT et de pouvoir être octroyé un autre permis de travail. Donc, le premier permis de travail, même s'il ne travaille pas, est encore valide et spécifique, il ne peut pas travailler pour un autre employeur, mais il peut avoir un deuxième permis de travail fermé aussi, qui va... Donc, c'est pas...
Là,
il
si
s'annule pas,
comprends.
Mais c'est... En tout cas, c'est très... Il y a beaucoup de complexité, d'exceptions justement dans le programme qui fait... Ça peut être tout un casse-tête pour ceux qui interviennent auprès de ces gens-là.
Oui. OK. Fait que si je comprends bien, quand on a un permis de travail fermé, on peut appliquer pour un autre. Mais là, quand on arrive au Québec puis qu'on n'a peu de travail finalement parce que notre employeur n'a pas besoin de nous. Premièrement, c'est quoi la responsabilité du travailleur là-dedans, de l'employeur, excuse-moi?
Bien, en fait, l'employeur...
Ça ne dérange pas plus que ça?
Il y a un contrat, mais pour faire respecter le contrat, c'est des conditions impossibles. Donc,
pour tout ce qui est nommé, pour donc,
l'employeur, ça dépend de sa bonne volonté, de sa bonne foi et tout ça. Donc, c'est encore une fois une raison pour laquelle... Puis là, c'est même pas l'esclavage moderne. Là, c'est plus des difficultés auprès des permis fermés. Là, quand on parle d'esclavagisme moderne, c'est que souvent, puisque c'est tellement difficile de porter un changement, de chercher un autre employeur, tout ça, les travailleurs vont endurer des conditions... qui sont souvent pas agréables ou néfastes pour eux. Par crainte de ne pas être rappelé dans le programme. Fait, s'ils portent plainte, ils ont peur que l'employeur les renvoie chez eux, ou qu'il, même si c'est illégal, ou s'ils portent plainte, ils ne vont peut-être pas être rappelés l'année d'après. Donc, eux, ils ont besoin de cet emploi-là, ils ont besoin de cet argent-là, et ça fait en sorte que à cause de ces contraintes-là, ils vont endurer des situations d'harcèlement, des situations de violence, des situations qui ne sont pas adéquates, en fait, selon les normes de canadiennes.
Comment ça fonctionne pour les personnes qui viennent ici travailler pour trouver l'employeur? Est-ce que c'est eux qui les contactent ou c'est eux qui doivent faire les démarches? Puis est-ce que c'est difficile?
En fait, ça c'est assez complexe aussi parce que les demandes de permis de travail sont faites par les employeurs. Donc, comment est-ce que l'employeur rentre en contact avec les employés potentiels? Il y a beaucoup d'agences de recrutement dans les pays d'origine. Il y a un article qui est sorti, je ne me rappelle plus, dans Le Devoir ou Radio-Canada, je ne me souviens plus, mais il y a des Philippins qui vont payer jusqu'à 15 000 $ juste pour avoir la possibilité de venir travailler au Québec. Donc ça, en plus, puis ça, c'est du côté philippin. Donc, on n'a aucun
c'est
contrôle
énorme,
là-dessus.
15 000 $ canadiens?
Oui, bien, on n'a aucun contrôle là-dessus. Puis ça fait en sorte que lorsque le travailleur arrive ici, il est endetté. Il y a des travailleurs guatémaltèques qu'on a su la première année, c'est juste pour payer les dettes pour pouvoir venir travailler au Canada. Donc, eux, ils sont doublement dans une situation de précarité parce que s'ils perdent leur emploi, ils sont endettés puis ils n'ont pas de moyens de repayer ces dettes-là par la suite. Donc, c'est plein de petites subtilités puis de dynamiques qui font en sorte que les travailleurs se retrouvent pris un peu dans des situations puis qui ont peur de faire valoir leurs droits. Puis quelqu'un qui va faire valoir son droit parce qu'il vit une situation difficile, puisque son logement est rattaché à son employeur.
Est-ce que l'employeur est obligé de fournir un logement?
Bien, ça encore, il y a des conditions dans les contrats types. Il y a deux catégories de travailleurs, les travailleurs à bas salaire et les travailleurs à haut salaire. Donc, à partir de 26 $ le travailleur doit payer son billet d'avion, son logement et tout ça. En bas de 26 $ l'employeur doit aider le travailleur à trouver un logement abordable ou dans le cas des travailleurs agricoles, le logement est soit fourni pour les travailleurs mexicains qui sont dans le programme des travailleurs saisonniers ou chargé à 30 $ par semaine aux travailleurs qui sont dans le programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, même dans une entreprise, on peut avoir des travailleurs qui... la moitié ne paye pas le loyer et une autre partie paye un loyer. Donc, à cause des différents programmes, puis ça peut créer justement des frictions.
Des frustrations aussi.
Ceux qui ne payent pas leur loyer, cependant, doivent payer la moitié du billet d'avion. Ceux qui payent leur loyer ne payent pas de billet d'avion. En tout cas, c'est très complexe. Puis toutes ces différentes exceptions-là qui font en sorte que c'est un labyrinthe aussi pour les travailleurs, d'avoir la bonne information, de savoir c'est quoi leurs droits, puis savoir à quoi qu'on droit, là, en fait.
Exactement, parce que les règles ne sont pas nécessairement accessibles dans la langue maternelle. Je pense que le gouvernement essaie de plus en plus de les rendre accessibles.
Bien, c'est justement nos projets de soutien aux travailleurs étrangers temporaires. La première action qu'on fait, c'est vraiment d'informer les travailleurs. Les informer sur leurs talons de paie et les déductions. Dans le pays d'origine, pour beaucoup de ces travailleurs-là, c'est les entreprises qui payent les impôts et pas les individus. Donc, quand ils arrivent ici puis ils voient les déductions le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, l'assurance chômage auquel ils n'ont pas le droit parce qu'ils ont un permis fermé. Donc, ils ne peuvent pas être en situation de sans emploi à cause du permis.
Qu'est-ce qui se passe quand ils ont un accident de travail? Ces gens-là, ils font quoi?
Ben, ils sont couverts comme tout travailleur québécois. ils sont couverts par les normes minimum du travail, donc la CNSST. Okay. Et donc, ils ont leur AMQ, ils ont la protection de la CNSST. Les travailleurs agricoles ont aussi une assurance privée pour tout ce qui peut arriver à l'extérieur du milieu de travail. Donc, sauf qu'encore une fois, beaucoup d'employeurs, suggèrent aux travailleurs de ne pas déclarer les accidents de travail ou même font de la pression sur eux pour... parce que ça coûte cher à l'employeur. Puis là, l'employé peut avoir peur de dire « Ah, je me suis blessé, il faut que j'aille un billet du médecin. » Parce qu'il a peur que l'année d'après, il ne sera pas rappelé ou des choses de même. Donc,
habituellement, est-ce que c'est toujours les mêmes employeurs qui rappellent les mêmes employés?
Bien, là encore, ça dépend. Parce que là, on parlait des agences de recrutement dans les pays d'origine, mais il y a aussi les agences de recrutement ici ou les agences qui vont placer les travailleurs. Donc, nous, on travaille avec Ferme, on sait qu'il y a Arrimé aussi au Québec pour les travailleurs agricoles, qui, eux, vont justement faire l'intermédiaire entre l'employeur et l'employé pour faire toutes les démarches de permis de travail et tout ça. Donc, par rapport au placement des travailleurs, une fois qu'ils sont ici, il y a des employeurs qui vont directement dans le pays d'origine recruter les employés. Donc, il y a plusieurs manières de rentrer en contact avec les employés ou qu'ils arrivent sur les fermes. Donc, au Mexique, c'est régi par le gouvernement mexicain pour les travailleurs saisonniers. Au Guatemala, il y a plusieurs différents organismes, mais c'est un peu plus le Far West là-bas, si on veut. C'est très difficile, en fait, de réglementer parce que nous, on n'a aucun pouvoir au Canada sur qu'est-ce qui se passe dans le pays d'origine. Donc, mais encore une fois, dès qu'un employeur voit qu'il a besoin de main-d'œuvre, il peut aller recruter les travailleurs dans le pays qu'il veut, faire une offre d'emploi, faire la demande d'impact sur le marché de travail, puis ensuite, ça va être au gouvernement fédéral de voir pour le visa puis l'application de le permis de travail et le CAQ. Là.
OK. Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est quand même un long processus.
Oui.
Il y a beaucoup d'obstacles et c'est pas nécessairement facile de faire une demande d'emploi. Est-ce que c'est plus difficile pour l'employeur ou c'est plus difficile pour la personne qui va venir travailler?
Bien, en fait, la personne qui va venir travailler, c'est de rentrer dans le réseau pour pouvoir être employé. C'est pour ça que certains vont payer des montants assez considérables pour pouvoir rentrer dans le réseau.
Est-ce qu'ils payent des agences privées ou ils payent directement au
gouvernement?
C'est
des agences privées.
OK. Mm-hmm. Fait que dans le fond, ça coûte pas ce montant-là réellement. C'est parce qu'ils passent par des agences privées qui se font du profit.
C'est ça. Puis il n'y a pas vraiment de législation dans les pays d'origine. Donc, c'est justement ces complexités-là au niveau des agences de placement. Ça peut être n'importe quoi. Il y en a qui vont charger jusqu'à 15 000. Il y en a qui vont charger 2 000. En fait, ils vont charger dépendant de la nécessité de ces travailleurs-là.
Plus une personne est désespérée, plus tu peux charger cher, dans le fond. Mm-hmm. OK. Ben, c'est quand même triste à apprendre.
Oui, mais encore une fois, c'est comment est construit ce système-là qui est un peu... beaucoup de bureaucratie est très lourde, très difficile à s'adapter aussi parce que le marché de travail peut changer assez rapidement. Donc, ouais, on souhaite qu'il y ait une réforme de ce côté-là puis peut-être une meilleure organisation de comment tout ce programme-là est monté pour éviter justement les abus.
Oui, exactement. Est-ce que tu connais le cas de l'entreprise Jean Lemay à Saint-Hyacinthe? OK. Je vais l'expliquer à nos auditeurs pour qu'ils comprennent. Dans le fond, cet homme-là faisait venir des personnes migrantes avec des permis ou pas de permis. Puis après ça, il les faisait travailler chez d'autres employeurs puis il tirait du profit sur les heures travaillées. Il se faisait à peu près 40 000 par semaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a pu laisser ça arriver?
Lui, avant, il avait un permis pour faire venir des travailleurs étrangers temporaires, mais ça lui a été enlevé parce qu'il ne respectait pas justement les conditions. Peut-être même avant ça. Et puis là, il allait recruter directement à l'hôtel où arrivaient les demandeurs d'asile. Donc lui, ce qu'il faisait, il recrutait beaucoup des gens qui étaient des demandeurs d'asile.
Donc, ils n'ont pas de permis.
Les demandeurs d'asile, maintenant, ont des permis de travail. Sauf que beaucoup, avant que le permis de travail soit octroyé, lui, il allait les chercher. Ah, je vais donner un emploi. Donc, on en a des travailleurs, justement, ici en Estrie, dont un, là, M. Lemay chargeait 25 $ de l'heure à l'employeur. Il payait 15 $ de l'heure au Mexique à l'employé, mais il s'empochait 10 $ à chaque heure. Puis l'employé faisait des 80 heures par semaine. Donc, on peut s'imaginer ça, c'est un travailleur.
Monsieur
Lemay fait 800 $ par semaine sur ce travailleur-là qui n'avait même pas de permis de travail, qui était dans un processus irrégulier et qui est isolé, qui ne connaît pas ses droits. Mais là, En plus, l'employeur pense que les choses sont normales et légitimes.
C'est la personne, dans le fond, qui a contracté auprès de M. Lemay. Lui, il était-tu au courant ou il ne savait pas?
Ben, lui, il pensait que, justement, que c'était une agence de placement légitime. Okay. Puis c'est ça le problème aujourd'hui avec les agences de placement, c'est qu'il y a eu une multiplication. Il n'y a pas beaucoup d'enquêteurs pour aller voir toutes ces agences-là. Il y a des agences qui... avec les travailleurs sans permis de travail, les travailleurs sans statut aussi, qui on était au courant de cas où ce que l'employeur fournissait le loyer, mais l'agence de placement chargeait un autre 250 $ par talon de paye ou par semaine à l'employé.
C'est
en plus,
énorme.
Donc, il ne se faisait pas juste de l'argent sur placer le travailleur, sinon il faisait de l'argent sur un logement qui n'était même pas à lui. Là. Donc, okay. Puis c'est dans des cas de pénurie de main-d'œuvre, ce qui se passe, c'est que les entreprises vont tout faire pour aller chercher des travailleurs parce que sinon, ils ont leur chiffre d'affaires.
Ils en ont besoin.
Fait que ça crée des situations justement où ce qu'il y a des personnes qui peuvent contourner ou chercher des manières à contourner, trouver des exceptions ou trouver des moyens
qui ne
sont pas légales, justement.
Et
tout le monde se déresponsabilise.
Exactement. Je ne le savais pas. C'est facile de se déresponsabiliser.
Puis dans le cas de M. Lemay, ce qui est tragique, en fait, c'est que c'est à cause du décès d'un travailleur qu'ils ont pu ouvrir l'enquête. C'est que
en
le
effet.
Monsieur amenait... En fait, il y a quelqu'un qui conduisait pour ce monsieur-là qui n'avait pas de permis de travail, qui rentrait dans le fossé. Il y a un travailleur qui est décédé, il y en a un autre qui était blessé. Mais ce n'est même pas le chauffeur qui a appelé les ambulances ou la police. C'était des passants. Parce que c'était passé auparavant où un autre chauffeur de M. Lemay avait appelé un cycliste qui l'avait laissé mourir dans le fossé. Ils se sont préoccupés pour faire disparaître la voiture. Donc, c'est...
On voit où est-ce qu'on a la priorité. Justement, dans le journal, il disait qu'il avait appelé son patron, M. Lemay, mm-hmm. puis il avait aucun des deux n'avait rien fait. Ils n'avaient pas appelé les secours. C'est un passant qui l'a fait, justement. Là, on a parlé un peu des obstacles, des restrictions. On sent que c'est pas facile. Mais c'est quoi la différence au niveau, mettons, maraîcher, agricole, quand on travaille dans une plantation de sapin ou quand on travaille dans une usine, par exemple?
Bien, premièrement, pour les travailleurs agricoles, une particularité, c'est que la nature du travail agricole, c'est que les travailleurs ils n'ont pas de limite au nombre d'heures qu'ils peuvent faire avant. Ils n'ont pas de temps supplémentaire, en fait. Donc, il y a des travailleurs qui vont faire jusqu'à des 80 heures par semaine de travail, et même plus, il y a des cas dans les Laurentides de la ferme Pitre où c'était encore plus que ça.
Un de tes dossiers, la ferme Pitre?
Non, ça c'est le dossier du RATMAC, mais qui est sorti dans le documentaire Essentiel à Télé-Québec.
Okay.
Donc, je vous suggère à tout le monde, si vous n'avez pas encore vu ce documentaire-là, c'est vraiment, ça illustre très bien tout ce côté un peu obscur du milieu de travail au Québec.
Ce n'est pas commandité.
Non, vraiment pas. Si je pense que c'est pour intérêt public là, qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est un dossier qui était pris en charge par le RATMAC, qui est le réseau d'aide aux travailleurs et travailleuses migrantes du Québec.
Puis, au niveau maraîcher, moi, j'ai appelé ma mère hier soir. J'ai dit, hey, je vais rencontrer un intervenant du milieu pour répondre à mes questions. Et puis, elle m'a dit, moi, j'étais payée 3 $ de l'heure pour ramasser des cocombes sur une ferme maraîchère quand j'étais plus jeune. Là, ça revient un peu à ce que tu disais. Avant, au Québec, il y avait suffisamment de main-d'œuvre québécoise, mais là, ça l'a changé. Est-ce que c'est encore ça, les salaires? Est-ce que c'est encore aussi pitoyable?
Bien, en fait, les salaires en agricole, c'est le salaire minimum. Pour la plupart, c'est sûr, en élevage, je pense qu'il y a peut-être 1 $ de plus de l'heure. Et il y a une augmentation. Même l'augmentation, c'est appliqué aux travailleurs agricoles avant le reste de la population, la dernière augmentation qu'il y a eu au niveau du salaire du minimum. Donc, on est rendu, je pense, à 15 et 25 de base.
Pour l'agricole.
Mais ce qui se passe, c'est qu'un travailleur québécois, lorsqu'il va être dans une entreprise après 2, 3 ans, 4 ans, il y a comme une échelle salariale, une majoration de son salaire, ce qu'on ne voit pas chez les travailleurs agricoles saisonniers ou temporaires.
Parce que ça reste la même chose, du moins ça va suivre le salaire minimum que le gouvernement.
C'est ça, ça va suivre le salaire minimum, mais il y a eu le cas dans la tribune, un travailleur qui faisait, je pense, 23 ans qu'il travaillait auprès de la même entreprise, puis était rendu à 17 et quelques de l'heure. T'sais, après autant d'années, je pense qu'un travailleur québécois aurait eu quand même une augmentation un peu plus que 2 $ de l'heure. Surtout qu'il faut penser que ces gens-là, ils deviennent des travailleurs qualifiés à force de travailler auprès de la même entreprise, à connaître comment fonctionnent les choses. Donc, c'est une productivité qui est augmentée et tout. Et donc, ça serait dans l'intérêt des employeurs québécois de justement mettre en place des mécanismes de favoriser la fidélisation de ses employés, tout ça, puis, mais aussi qu'ils puissent se sentir reconnus dans, dans ce qu'ils font. Lorsqu'on a commencé ce projet-là, c'était en l'automne 2020. On a rencontré des travailleurs à une épicerie, on était en plein COVID et tout ça, des travailleurs mexicains, on les a invités à, dehors à pique-niquer, à manger des tamales. Puis une des, en parlant avec eux, une des choses qu'ils avaient fait remarquer, c'est qu'un, ils s'étaient invisibles, ils avaient l'impression qu'on ne reconnaissait pas un peu qu'est-ce que le travail qu'ils faisaient. Ils travaillent fort, ils travaillent beaucoup. Et c'est vraiment des travailleurs essentiels pour l'économie ici. Donc,
vraiment, on manque de main-d'œuvre. On en a besoin de ces gens-là. Puis j'ai l'impression que les programmes du gouvernement canadien ne correspondent pas nécessairement à ce qu'on veut mettre en valeur, ce qu'on priorise, c'est-à-dire de mettre en valeur ces gens-là qui font un travail exceptionnel et qu'on a besoin.
Mais puis j'ai l'impression, surtout avec les gouvernements en ce moment, là, on regardait avec le gouvernement Québec qui donne des rabais aux grosses entreprises en électricité tout ça, j'ai l'impression qu'on aborde toujours la chose du côté des entreprises, des employeurs, comme quoi ils ont le gros bout du bâton et les choses sont mises en place par rapport aux employeurs et on passe peu à ceux qui sont en bas, mais qui font fonctionner justement l'économie et l'industrie. Puis avec le vieillissement de la population, c'est une tendance qui est vraiment en augmentation. Puis ça va être important de bien gérer et de bien organiser cet apport de travailleurs étrangers temporaires. Je pense que récemment, il y a eu des chiffres, il y avait 400 000 personnes à statut temporaire au Québec. L'année passée, un Canadien sur 20 et un statut temporaire. Donc, c'est pas juste beaucoup. Les travailleurs temporaires, c'est aussi les demandeurs d'asile et les étudiants, mais ça reste que c'est une grosse... c'est quand même une proportion de la population non négligeable et qui va aller en augmentant avec le vieillissement de la population. Et c'est une réalité vraiment rurale maintenant, alors qu'auparavant, l'immigration était plus dans les grands centres comme Sherbrooke, tu sais, les grandes villes, mais maintenant, là, on a des travailleurs étrangers temporaires à Val-des-Sources, à Cookshire, East Angus, Mégantic. Donc, les besoins sont beaucoup plus ruraux et les défis aussi à l'intégration avec la crise du logement et tout ça sont assez énormes. Là, et il faut vraiment, je pense, asseoir plusieurs acteurs ensemble pour réussir cette transition-là. Je pense qu'il y a des statistiques qui montrent que l'acceptation de l'immigration est en train de diminuer de la part de la population canadienne à cause justement de ces problèmes-là de logement puis de sentiment qu'il manque de place. Donc, si on traite pas bien ça, ça peut causer justement des problématiques d'inclusion, des problématiques qu'on a vu dans le passé par rapport au job, mais là, on va le voir peut-être par rapport au logement ou d'autres affaires. Là,
c'est ça. Tu as parlé des statuts temporaires, statuts réguliers. On a parlé aussi des programmes pour les travailleurs étrangers temporaires, mais c'est quoi qui serait mieux pour eux? Parce que dans le rapport de l'enquêteur, on a mis qu'il fallait changer ce statut-là. C'est quoi qu'on pourrait faire?
Bien, là, il y a des discussions pour arrêter les permis fermés, mais les mettre sectoriels. Parce que ce que les agriculteurs ils craignent, c'est que si un travailleur agricole payé à 15 et 25 $ peut changer de job comme qu'il veut, il va se faire... Déjà là, ils se font solliciter dans les épiceries pour aller travailler dans les usines, pour aller travailler à 20 $ parce qu'ils sont payés plus cher. Puis il ne faut pas oublier, ces travailleurs-là, souvent sont plus qualifiés pour le travail qu'ils sont en train de faire en agriculture. Il y a des électriciens, des comptables, des boulangers, il y a plein de monde qui font du travail agricole, qui pourraient faire un travail qui est plus payant selon les compétences qu'ils ont. Et on le voit, il y a des efforts de recrutement, des agences de recrutement au Walmart qui vont approcher directement les travailleurs. Puis là, encore une fois, c'est toutes les problématiques de contrôle.
Ça montre un peu que les employeurs sont désespérés de trouver des employés.
C'est vraiment, en cas de pénurie, c'est ça qui se passe. Puis c'est ce qui peut amener de la corruption. En fait, on cherche par tous les moyens d'avoir des ressources rares. Donc, c'est celui qui a les magouilles et les manières de contourner les lois qui va réussir à aller les prendre avant les autres. Et c'est un peu le... C'est cela, free-for-all.
Mais au moins, si on avait des permis de travail qui sont sectoriels, comme tu le nommais, ça l'empêcherait certains abus ou du moins ça diminuerait les craintes que les employés ont par rapport au fait de ne plus pouvoir travailler au Québec, par rapport au fait de vivre les conditions dans lesquelles ils sont, de devoir y rester par crainte. Donc, au moins, ils pourraient trouver un autre employeur qui les traite très bien.
Mmh. Puis là encore, c'est toute la manière que le programme est structuré où ce que l'employeur, il a un certain sentiment d'appartenance envers l'employé parce que il va, quand c'est un bas salaire, il va fournir le billet d'avion, il va faire plusieurs dépenses aussi pour avoir le permis de travail, le CAQ. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de transformer ça un peu où ce que le travailleur, de toute façon, il paye des impôts, l'employeur, comment est-ce qu'on pourrait enlever ce sentiment-là de « Ah, j'ai payé pour lui, c'est mon travailleur », tu sais, donc je pense que ça prend vraiment de repenser toute la structure, je pense, du programme, mm-hmm. de voir, parce que c'est pour la richesse collective aussi que ces gens-là viennent contribuer. Là. Ils payent du RAMQ, ils payent le régime d'assurance parentale, RQAP, ils payent l'assurance chômage.
Ils payent environ combien par mois?
Ben ça dépend encore combien ils travaillent.
Disons qu'on prend l'exemple d'un travailleur temporaire étranger qui vient travailler sur des terres agricoles. Donc, il fait le salaire minimum au Québec. Puis, est-ce qu'on veut lui payer le billet d'avion? Ça va dépendre.
Bien, pour les travailleurs du Guatemala, dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, le billet d'avion, puis pour tous les travailleurs le programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est souvent des contrats de 2 ans. C'est des travailleurs non qualifiés, donc le billet d'avion, puis c'est des bas salaires. Donc, en bas de 26 $ de l'heure, c'est l'employeur qui doit payer les frais de recrutement du travailleur, des agences d'ici, payer aussi le billet d'avion et fournir un logement abordable ou aider le travailleur à trouver un logement abordable.
OK.
C'est ça. Tous les frais encourus pour faire venir le travailleur, c'est l'employeur qui doit les payer.
Si on prend ce cas-là, par exemple, où est-ce que l'employé s'est fait payer le billet d'avion, il y a un bas salaire, mais salaire minimum tout de même, j'ai oublié ma question. Je m'en viens quelque part, j'ai oublié.
Par rapport à l'exemple d'un travailleur donc agricole, les frais qui sont payés par l'employeur.
Ah, OK. Ma question, dans le fond, c'était est-ce que c'est plus rentable est-ce que ça serait plus rentable de payer plus cher l'employeur, donc d'augmenter les salaires? Donc, on enlèverait le sentiment d'appartenance, de comme possession de l'employeur parce qu'il a payé le billet d'avion ou parce qu'il a payé d'autres frais. Et peut-être que ça serait plus rentable aussi pour l'employé d'augmenter son salaire. Puis peut-être que lui devrait payer ces dépenses-là, comme les billets d'avion, ou ça serait pas possible parce qu'on sait que certains arrivent ici avec un très, très budget, un faible budget.
Bien, encore une fois, c'est toute la question de l'inflation aussi. Si on commence à payer au-dessus de 26 $ de l'heure des travailleurs maraîchers, ça risque de faire tout augmenter les prix. Donc, c'est comme un cercle vicieux dans le système où il faut maintenir le salaire à un certain niveau pour pas que les produits coûtent trop cher. Déjà là, il y a eu beaucoup de grogne là, quand le salaire minimum a augmenté d'un dollar là, quasiment l'année passée. Puis on le voit couramment là, que surtout quand tu imagines tu as des grosses équipes le problème je pense va être déplacé ailleurs. Moi ce que je voyais peut-être comme
solution
comme une solution possible, c'est d'avoir une structure. Alors, le gouvernement, on ne sait pas comment ça peut fonctionner, mais c'est comme Emploi Québec où ce que les travailleurs peuvent s'enregistrer et là, qu'ils peuvent avoir aussi un certain suivi, une banque d'employés que les employeurs peuvent aller rechercher, puis où ce que les frais de façon de billets d'avion, même si le gouvernement du Québec qui les prend en charge, il va se faire repayer par les impôts que vont payer ces travailleurs-là et de pouvoir permettre même un travailleur, parce que c'est des fois un travailleur, il est au Guatemala, il dit « Ah oui, je vais aller travailler au Canada, je veux faire de l'argent », il arrive ici, mais il n'est pas fait pour le travail auprès des animaux. Donc, il se retrouve, lui, confronté aussi à être dans une situation qui ne convient ni à lui ni à l'employeur. De pouvoir avoir des périodes de probation où ce qu'il n'est pas nécessairement pris dans une situation où ce qui convient à personne, de pouvoir ressortir, OK, essayer quelque chose d'autre, d'avoir une meilleure flexibilité, puis aussi de permettre à ces travailleurs-là de pouvoir avoir une mobilité par rapport à leurs compétences. Si un travailleur travaille dans l'agriculture, mais qui pourrait faire la construction, je pense que ce serait le Québec.
Pour vous, on devrait lui donner ce choix-là?
Bien, de pouvoir avoir comme plus une forme de reconnaissance des compétences, puis de que les gens aient une forme de rechercher une carrière professionnelle aussi, où ce qu'ils peuvent développer leurs compétences, puis développer leurs acquis. Puis, une autre chose, c'est que tous ces travailleurs-là agricoles, c'est des travailleurs non qualifiés, donc ils n'ont pas le droit à la résidence permanente. Donc, pour beaucoup de ces travailleurs-là qui vivent en région, ils aimeraient ça pouvoir faire venir la famille puis venir avec la famille.
Accéder parce que
c'est une des problèmes très grandes de ce programme-là, c'est que ça crée un vide du côté des pays d'origine. Le père est absent, la mère est absente, ça crée des problèmes sociaux aussi. Ça crée de l'angoisse, l'isolement. Donc, de pouvoir permettre à ces travailleurs-là de venir après une période d'essai, de pouvoir faire venir leur famille, de pouvoir s'établir aussi. Parce que l'idée, en fait, avec le gouvernement, de juste donner la résidence permanente aux gens qualifiés, c'est pas les gens qualifiés qui vont aller dans le fin fond du rang... traire les vaches là, ou habiter, à repeupler ces communautés vraiment rurales-là, ça prend des gens qui travaillent dans ces places-là. Donc,
donc quelle réticence du gouvernement à accorder la résidence permanente pour des employés qui travaillent surtout dans les champs? Mais on voit que si on leur offrirait, ça changerait beaucoup de choses. Est-ce qu'on devrait le faire? Ça aurait quoi comme impact si on commence à donner la résidence permanente?
Ben là encore, ça dépend. C'est quoi ta vision de qu'est-ce que tu veux voir comme le Québec? Mais moi, je crois que, avec la crise de la natalité, en fait, le vieillissement de la population, ça va prendre des immigrants pour dynamiser ces régions-là. Les enfants des immigrants vont aller à l'école, ils vont aller à l'école en français, il va y avoir plus de ressources pour les écoles, il va y avoir plus de services, les femmes peuvent offrir des services aussi auprès des personnes plus âgées. En fait, je pense que c'est pas juste pour les travailleurs étrangers temporaires, mais c'est peut-être la solution pour dynamiser nos régions, puis les petites communautés qui ont de la misère à faire vivre les écoles, à faire vivre les services, les dépanneurs et différentes...
On n'arrête pas de le répéter qu'en région, il manque de personnes, il faut peupler les régions. Il y a beaucoup de potentiel, mais il n'y a pas suffisamment de monde. Donc ça pourrait être une solution de ce que vous dites.
Puis la préoccupation d'intégrer ces gens-là ou de la langue, les enfants, ils vont apprendre le français à l'école, puis la prochaine génération sera très habile en français. Puis ça, moi, je pense que ça... veut pas, je pense que... On s'en va vers ça. Maintenant, comment est-ce que ça va être amené? Comment est-ce qu'on pourra l'organiser ou le structurer? Parce que c'est inévitable que si on ne renouvelle pas la population des petites communautés rurales, soit ça devient des villages fantômes ou juste des endroits où il y a des travailleurs une période de l'année dans des gros conglomérats agricoles, puis que ce n'est plus des places dynamiques ou vivantes, là, en fait. Donc, je pense que la survie des communautés passe par ça, puis une ouverture aussi à la manière qu'on se projette dans le Québec de demain, qu'est-ce qu'on veut créer comme société, comment est-ce qu'on veut être... vivre ensemble, puis de créer des liens dynamiques, puis de s'enrichir des autres, là.
Oui. Puis ça me fait penser à Hystérophène, justement. C'est un petit village qui est presque devenu fantôme maintenant, parce qu'il n'y a pas vraiment d'emploi autre que la firme piscicole des Bobines. Puis l'autre secteur qui est en émergence, c'est les plantations de sapin. Évidemment, on fait venir beaucoup de travailleurs étrangers temporaires, qui sont très bien traités. D'ailleurs, la personne qui possède cette plantation-là offre une maison qui est magnifique en campagne pour ses employés. Puis, ils sont très bien traités aussi. Mais on sait que c'est pas la réalité de tout le monde. Puis, c'est là un peu la responsabilité des employeurs, à quel point on peut les rendre responsables, à quel point on peut revenir contre eux.
Bien, ce projet-là est surgi du fait que, connaissant le milieu agricole, et les employeurs agricoles sont souvent déjà débordés. C'est pas souvent ceux qui s'exploitent eux-mêmes le plus. C'est les employés agricoles, ils font des heures de fou. Le projet est né de cette conscience-là et de dire qu'il y a des responsabilités que les employeurs ne sont pas en train de remplir. Et ces responsabilités-là, ça dépend de la bonne volonté des employeurs. Des employeurs qui le font très bien, il y en a d'autres qui le font pas. Donc, nous, ce qu'on a proposé avec ce projet-là, c'est de dire, OK, on vient vous aider à remplir vos obligations, puis de faire en sorte qu'on s'assure que tous les travailleurs, peu importe la bonne volonté de son employeur ou l'implication de son employeur vis-à-vis ces responsabilités-là, que nous, on peut venir pallier ça puis de s'assurer que les travailleurs, ils ont l'information nécessaire, qu'ils puissent avoir aussi des loisirs. Mais ça reste que c'est des responsabilités de l'employeur. C'est comme d'amener un travailleur à l'hôpital, c'est responsabilité de l'employeur. Mais on sait que l'employeur, s'il libère quelqu'un pour aller amener un autre travailleur à l'hôpital, ça devient complexe dans son organisation de travail. Mm-hmm. Il y a une charge de travail ensuite qui, là, il en perd pas juste un travailleur, il en perd deux. Fait qu'il y a beaucoup de choses que nous, on va aider et assister qui sont la responsabilité de l'employeur, mais que nous, pour s'assurer qu'il y a pas de, que ça ne va pas bretter avant que l'employé se rende à l'hôpital, que les choses roulent et tout ça, c'est là qu'on vient nous assister puis d'aider l'employeur à remplir ses responsabilités puis de s'assurer que peu importe l'employeur, le travailleur va pouvoir recevoir l'information puis les services nécessaires.
Est-ce que c'est bien reçu habituellement de la part des employeurs?
Il y a encore beaucoup de réticence parce que souvent... Il y a eu des mouvements aussi, par rapport à la cruauté animale, tu sais, des gens qui s'en allaient dans les fermes. Mmh. Il y a toute la crainte des employeurs, de la syndicalisation. On est souvent perçu un peu comme ah, « OK, qu'est-ce qu'ils veulent eux autres? » Tu sais? Mais okay. Une fois qu'ils voient comment que ça roule, qu'est-ce qu'il faut... Oui, il y a de la méfiance, mais une fois qu'ils voient comment que ça roule et tout... puis le bienfait que ça fait aux travailleurs, là, on loue le Quatico, qu'on loue un gymnase les vendredis soirs pour du soccer, les dimanches pour du basket, à Val-des-Sources aussi, là, on cherche une place aussi à Sherbrooke. Donc, on crée des espaces aussi pour les travailleurs, ça leur fait beaucoup de bien, ça leur crée un petit réseau social, ils peuvent covoiturer, il y a tous les défis de transport en région qui sont vraiment assez complexes à organiser. Donc, ça crée tout un milieu social et une autonomie de ces travailleurs-là aussi. Ils se sentent mieux, ils peuvent sortir du milieu de travail. Donc, les employeurs en bénéficient de tout ça, du fait que les travailleurs sont plus contents. Ouais. Mais c'est sûr que si l'employeur ne respecte pas les conditions minimales de travail ou s'il y a des problématiques, on va être là pour assister les travailleurs à faire valoir leurs droits.
C'est ma question. Est-ce que vous pouvez dénoncer un employeur ou vous êtes juste là pour assister
N'importe qui pourrait dénoncer de façon anonyme un employeur. Mais nous, on fonctionne selon les demandes des employés. On va pas s'interposer et dire « Ah, vous êtes maltraité, là, on va dénoncer votre compagnie. » Nous, on est vraiment là pour assister l'employé. C'est-à-dire, l'employé, il nous fait part d'une condition qu'il vit, donc on va être assis à côté de lui, voir c'est quoi, sous quelle norme est-ce que ça rentre? Est-ce que c'est pécunier? Est-ce que c'est de l'harcèlement? Est-ce que c'est de la violence? Est-ce que c'est un travail vulnérable? Donc, l'aider à l'orienter, parce qu'en plus, tous ces formulaires-là sont en français, c'est impossible pour un travailleur de unilingue espagnol de pouvoir naviguer à travers ça. Donc, on va lui expliquer comment monter un dossier de plainte, comment... des preuves, qu'est-ce qui est arrivé, comment montrer l'affidavit, tout ça, mais c'est tout le travailleur qui doit monter ça. Nous, on peut... C'est pas nous qui vivons la situation, donc on est là vraiment pour les guider, puis les aider à remplir le processus, les accompagner s'ils veulent aussi. On les accompagne aussi dans l'interprétation, traduction et tout ça. Donc, on est vraiment là pour faire ce lien-là entre ce qui est la loi, ce qui sont les conditions, puis d'assister ces travailleurs-là à faire valoir leurs droits. Là.
En 2023, le gouvernement a répertorié 117 infractions chez différents employeurs. C'est quoi les infractions que tu vois le plus souvent, que tu assistes le plus souvent?
Bien, on a vu beaucoup des déductions pour l'équipement de travail ou des choses qui sont...
Ils sont censés être payés par
l'employeur. Des fois aussi des déductions pour le billet d'avion, pour les frais de recrutement. Il y a aussi ce qu'on a vu, je pense qu'il y a eu 77 chefs d'accusation de la CNST contre BRP qui faisaient venir des travailleurs de leur usine du Mexique, mais les payaient à peu près 4-5 piastres de l'heure.
C'est 4-5 piastres de l'heure seulement?
Oui, puis ce ne sont pas les seuls. C'est qu'il y a un, justement, dans les exceptions, il y a un programme où lorsque tu as une multinationale, tu as des travailleurs dans un autre pays, tu peux les faire venir pour les former, mais c'est temporaire, c'est comme 3 mois. Donc, ils ont leur contrat là-bas, mais ils viennent apprendre dans les chaînes de montage ici pour l'éventuel transfert des opérations dans le pays.
Mais même un étudiant en génie va être mieux payé pour une formation.
Oui, mais pour lui, ça, en fait, c'est parce que son contrat est au Mexique. Donc, c'est un contrat de travail au Mexique.
C'est comme s'il était payé le même salaire qu'il était payé à l'usine au Mexique?
C'est ça.
Okay. Mais ça dure juste 3 mois aussi, par exemple?
Supposément. Mais là, c'est là où on essaie de prolonger la chose. Il y a le flou, il n'y a pas d'inspecteur. Puis, en fait...
Mais en tant que tel, quand ils ont fait venir des travailleurs à l'usine de Valcourt, c'est censé être pour 3 mois seulement?
Selon le programme, c'est censé être 3 mois. J'ai pas plus de détails sur combien de temps ils ont été présents, parce que d'ailleurs, c'était une des problématiques. Les travailleurs avaient tous très peur de parler. Puis on a été mis au vent de la chose par un reportage de TVA qui parlait comme « Ah, comment que c'est le fun, les travailleurs s'en vont à Havana Resort, ils sont logés là-bas, ou ils s'en vont à Windsor, à la maison, à l'ancienne maison de personnes âgées. » Donc, on a dit, il y a des travailleurs étrangers temporaires, on va les présenter nos services. Puis, c'était impossible de parler à personne. Donc, le climat de peur nous avait déjà. Puis là, à force de poser des questions, on a su qu'ils étaient payés en pesos. Donc, ça, c'est la deuxième chose qui dit, c'est bizarre, ils sont payés en pesos. Donc, avec des autres partenaires, on a posé des questions avec le CNSST, avec le RATMAC et d'autres, et c'est eux qui ont amené l'enquête. Mais comment justement de se poser ces petites questions-là? C'est parce que, encore une fois, il y a tellement d'exceptions. Qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal?
Donc, ça jouait sur la ligne entre le légal et le non-légal?
Oui. Mais en plus qu'il y a eu des mises à pied à Bombardier de Québécois, alors qu'on faisait venir des travailleurs étrangers temporaires qu'on payait 4$ de l'heure. Mais encore une fois, le système est tellement complexe, il y a tellement d'exceptions pour les travailleurs saisonniers, pour les travailleurs ci, pour les travailleurs ça, que pour s'orienter dans tout ça, ça prend beaucoup de patience et beaucoup de lecture. Et même là, d'avoir une réponse claire. Puis ce qui fait en sorte, c'est qu'un travailleur, ensuite, qui veut faire valoir un droit, il va devoir payer 2 000, 3 000 $ s'il engage un avocat, peut-être même plus pour pouvoir
régler. C'est pas tout le monde qui a envie de s'embarquer là-dedans. Il n'y a pas l'énergie. Il y a même l'argent.
Les ressources. Ouais. Pour faire ça. Surtout ceux qui sont endettés pour venir ici, puis ils n'ont pas une scène, là, ils n'ont pas pu travailler beaucoup. Tout l'argent, ils l'envoient direct, toujours dans le pays d'origine. Fait que en fait, ils n'ont jamais beaucoup d'argent sur place. Donc, c'est plusieurs difficultés là, qui sont dans toute cette structure-là.
À mon sens, ça n'a aucun bon sens de donner des salaires aussi bas, même si on prétend que c'est pour une formation, même si on prétend que c'est juste pour une période de 3 mois. Pourquoi le gouvernement ne donne pas un salaire minimum pour tous les permis de travail qui sont actuellement fermés, mais qu'on voudrait qu'ils soient aussi sectoriels, pour tous les personnes qui viennent travailler ici de façon temporaire?
Bien, encore une fois, je me pose la même question. Puis c'est aussi le gouvernement, souvent, tout est compartimentalisé un peu et séparé. Fait que quand tu demandes l'information, savoir si on est travailleurs ou de ça. Il y a personne qui peut vraiment donner une réponse parfois à cause de la confidentialité ou d'autres choses. Donc, ça devient tout un contexte très complexe. C'est, je pense qu'il pourrait être simplifié. Peut-être c'est mon côté un peu utopiste et la réalité cache... C'est ça, la réalité cache peut-être certaines affaires auxquelles on n'est pas conscient, mais la manière que c'est en ce moment, ça favorise pas vraiment les travailleurs. Puis je trouve que ça favorise pas les employeurs non plus, surtout avec les délais là, que ça prend là, pour toute la paperasse et toutes ces affaires-là. Donc,
OK. Ouais. Ma prochaine question était par rapport aux compétences. On sait que l'immigration, c'est une compétence qui est partagée par le fédéral, par le provincial. J'imagine que ça complique encore plus les choses.
Ben oui, justement, lorsque, par exemple, un travailleur, il y avait un cas l'année passée dans un verger, il y avait plusieurs travailleurs qui ont été transférés sur une ferme de sapins pour la récolte, parce que la nature du travail agricole, c'est que tu as des roches à des périodes, mais après ça, tu n'as plus besoin des travailleurs. Donc, pour les travailleurs, dans le programme de travailleurs agricoles saisonniers, il n'y a pas de problème. même, tu peux demander un transfert
ça, c'est pas la même chose que le programme fédéral de travailleurs
c'est fédéral. Oui.
Donc, on peut alterner entre travailleurs temporaires étrangers puis migrants saisonniers. Là. C'est la même chose.
Oui, en fait, c'est le programme de travailleurs PTAS, le programme des travailleurs agricoles saisonniers, mais tu as des travailleurs agricoles qui sont dans le programme des travailleurs étrangers temporaires. Et c'est là la différence. Les programmes des travailleurs étrangers temporaires, tu peux pas avoir de transfert aussi facile que ça. Puis en plus, il faut que le travailleur paye à nouveau un autre certificat de sélection de Québec et paye une bonne partie des frais pour le nouveau visa aussi. Donc, même si son visa était valide.
Il faut qu'il en paye un nouveau.
Donc, un travailleur qui travaille, il pensait, en plus, ces travailleurs-là avaient un contrat d'un an. Donc, ils arrivent ici, ils pensent travailler un an, ils travaillent un mois et demi dans le verger, ils sont transférés, ils doivent payer 500
piastres. Mais c'est pas honnête non plus de la part de l'employeur qui sait que le travail ne va pas durer un an.
Oui, mais ça c'est la première partie, chose qui ça c'est la première problématique. La deuxième problématique, ils ont été transférés sur une autre ferme. Là, ils ont dû payer à peu près 500 pour avoir le CAQ. Payer une partie du visa et tout ça. Et donc, ça fait en sorte que... Puis ces frais-là sont... Souvent, c'est l'employeur qui les paye au début, puis là, c'est déduit de leur dernière paye. Fait qu'ils sont rendus dans leur pays, ils reçoivent leur dernière paye, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Ils peuvent plus rien faire.
Mais en plus...
Déjà, c'est difficile d'avoir accès aux ressources puis de se justifier devant la justice, mais là, ils sont rendus dans leur pays, ils peuvent plus rien faire.
Puis en plus, c'est légal.
En plus, la déduction est légale.
Oui, ben, parce que c'est le programme qui est fait de même. Donc, l'employeur fait juste appliquer les conditions du programme.
C'est carrément abusé de tous ces gens.
Ben, surtout que c'est souvent, on prend des gens qui en ont le moins. C'est ça. Pour eux, 400 $, ça représente beaucoup, alors que pour un employeur ou pour quelqu'un d'autre, ça peut être... L'échelle de valeur est vraiment différente, c'est ça. Sauf que si l'entreprise a 100 travailleurs, ça commence à s'additionner, mais en même temps, je pense que... Puis je pense à la responsabilité du gouvernement de justement simplifier les choses puis d'adapter le programme à la réalité du terrain, la réalité du travail agricole, justement, qu'il y a des roches, puis que peut-être c'est la nature de pouvoir faire ces transferts-là,
mais de l'amplifier. Sans devoir repayer.
Sans devoir repayer, comme c'est le cas pour les travailleurs agricoles saisonniers. Donc, puis là, en plus, ça crée sur la même... Dans la même exploitation, tu as des personnes des deux programmes, donc des gens qui ont des conditions différentes, qui travaillent, qui font la même chose. Et autre chose, les travailleurs agricoles temporaires sont payés un certain salaire. Si on modifie leur salaire, il faut demander un autre permis de travail. Donc, même un employeur qui serait bienveillant, qui dit « Ah, je vais payer mes travailleurs plus », il faudrait qu'il refasse une autre demande de permis de travail pour l'augmentation de salaire. Même dans les fermes, les Québécois vont souvent travailler à partir de 20 de l'heure, et alors que les travailleurs étrangers temporaires sont payés 15 et 25 parce qu'il n'y a pas un travailleur québécois qui veut faire cet effort-là à ce prix-là. Donc, on se retrouve en plus pour le même travail dans une exploitation. Les gens ne sont pas payés pareil. Donc, en tout cas, c'est une problématique très complexe puis très, comment dire... Et je pense que ça prend une concertation aussi de plusieurs acteurs ensemble parce que c'est les enjeux municipaux, des enjeux provinciaux, fédéraux. C'est plusieurs acteurs. C'est les employeurs aussi. C'est tous les différents services. Ces travailleurs étrangers temporaires-là ne sont pas pris en compte lorsque les budgets sont attribués aux municipalités, mais tu as des municipalités comme Saint-Rémy qui va doubler pendant l'été de sa population. Donc, l'attribution de fonds par rapport à la population pour les services de santé, par rapport à juste le système d'égout, tous les services que demandent ces travailleurs-là, ils ne sont pas pris en compte dans l'attribution des budgets des municipalités. Donc, ça peut avoir une incidence même, ça serait dans l'intérêt des municipalités de réclamer justement une meilleure, plus de ressources pour pouvoir bien intégrer ces travailleurs-là. Puis avec la crise du logement, organiser le logement, organiser la construction, il y a plein de choses, là, je pense, qui doivent être réfléchies.
Oui, dans le fond, on manque de ressources pour pouvoir bien accueillir ce problème-là. Bien accueillir ce problème-là, là, je ne parle pas des gens, je pense que vous avez compris, mais je parle que c'est très complexe, vous l'avez nommé. C'est une réalité qui a vraiment plusieurs catégories, plusieurs programmes. C'est très compliqué. Et donc, déjà, les municipalités, ils manquent de ressources, que ce soit pour s'adapter au changement climatique, que ce soit pour les infrastructures. Bref, là, je comprends qu'il en manque encore aussi pour bien accueillir les travailleurs temporaires. si on vous mettait dans une commission demain avec les entreprises, des personnes issues du milieu de l'agriculture, des personnes qui sont des travailleurs étrangers, le provincial, le fédéral, ça serait quoi votre mot d'ordre? Ça serait quoi votre direction?
Mais c'est quand même... de la complexité de la chose, c'est... Je pense, encore une fois, pour enlever le permis fermé, puis deux, l'accès à la résidence permanente, ça serait déjà... Mais, tu sais, vers quoi orienter toutes les démarches. Mais c'est une bonne question parce que je n'ai pas non plus la solution magique. Je n'ai pas le... Tu sais, de dire...
Il n'y a pas de solution parfaite qui va tout régler les problèmes.
C'est vraiment de repenser toute la manière que ce programme-là est structuré, surtout. Puis... Quand ça commence à rentrer dans la politique, il y a tous les enjeux de l'acceptabilité politique aussi, comme on voit le gouvernement Legault qui supposément capte l'immigration à 50 ou 60 000 personnes, alors qu'il y a 400 quelques mille personnes immigrants sur le territoire. On a juste déplacé le problème de place parce que...
On n'a pas pris en compte les données.
Ni les besoins, en fait. Parce que ça répond à des besoins. Puis même, je pense, les entrepreneurs, ils pourraient en prendre plus. Donc, idéalement, c'est de faciliter le processus pour que les gens puissent venir ici. Faciliter aussi leur accès à la résidence permanente. Assurer qu'il y a des services nécessaires pour eux, pour l'intégration, pour la francisation et tout ça.
Donc, les ressources.
Les ressources et aussi, il y a tout le problème de logement. T'sais, donc, c'est
ouais,
ça,
c'est
en
un,
ce moment, c'est...
Un gros problème.
Je pense que c'est ce qui va causer le plus de frustration puis qui va créer le plus de problématiques en ce moment. C'est justement ça. Puis pour ça, c'est pas des solutions du jour au lendemain. Ça prend une vision à long terme pour pouvoir résoudre ce problème-là.
Ça prend une vision à long terme. On n'a pas le choix parce qu'on peut pas juste espérer... que ça change du jour au lendemain.
Puis c'est à souhaiter que nos politiciens aient une vision à long terme, sauf que j'ai pas l'impression que c'est nécessairement le cas, c'est-à-dire
non, dans plusieurs décisions. Ils pensent à se faire réélire après 3 ans, donc les enjeux à long terme qui vont tous 10 ans, c'est pas leur priorité. Mais on a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'enjeux, les permis de travail qui sont fermés, entre autres, il faudrait qu'ils soient plus sectoriels. Du fait qu'ils soient sectoriels, les travailleurs temporaires étrangers pourraient accéder à d'autres employeurs. Mais je voudrais revenir sur un petit détail qui est la responsabilité de l'employeur, donc de l'entreprise. Par exemple, si on prend M. Jean Lemay, il a eu une amende de 198 000 $. Et quand on compare avec le montant qu'il se faisait par semaine, qui s'est fait pendant des mois, voire peut-être même des années...
Puis ça, c'est un calcul minimaliste,
oui,
parce qu'on calculait sur 40 heures, alors que ces travailleurs-là vont faire des 60, 70, 80 heures. Donc, ça peut même représenter quasiment le double de ce qui a été calculé.
Il n'y a pas une diminution de la valeur qu'on parlait au début, mais aussi une diminution de l'impact que ça a dans la réalité. On dirait qu'on considère que c'est moins important, qu'on accorde moins d'importance, moins de valeur au fait que ce soit des migrants saisonniers qui viennent travailler temporairement, que ben, c'est pas si grave que ça. Au final, le gouvernement ne montre pas l'ampleur que ça a, ne met pas les conséquences au niveau peut-être que ça devrait être.
Ben, c'est tout le problème de l'autre. Là, on le voit comment certaines personnes ou certains secteurs vont avoir une plus grande considération ou plus de droits que d'autres. Puis c'est une forme, j'ai l'impression, une forme de racisme systémique intégré dans un système. C'est justement systémique de considérer que ces travailleurs-là... sont plus des numéros. Ah, si c'est pas lui, j'en prends. Non, en fait, c'est des travailleurs, c'est pas des individus. C'est comme ça qu'ils sont considérés. Puis je pense que quand on commence à les voir comme individus avec des besoins, des besoins de socialiser, des besoins de se réaliser, et que c'est pas juste une dynamique je te donne du travail, je viens te sauver parce que je t'offre de l'emploi. Puis c'est souvent de changer, souvent c'est pour beaucoup on leur fait une faveur en les engageant. On est bon parce qu'on donne la job à des gens qui en ont pas, alors que ces gens-là, les employeurs, s'ils n'avaient pas ces travailleurs-là, la richesse dépend de ces travailleurs-là. Donc, puis je pense que c'est vraiment d'inverser cette dynamique-là, justement, de réaliser que notre dépendance sur ces travailleurs-là va peut-être le début de la reconnaissance de leurs valeurs, puis de la reconnaissance de leurs besoins aussi, pour qu'on puisse améliorer la situation de tout le monde, là, à la fois les employeurs comme les employés. Donc, je pense d'arrêter de penser que qu'on est les bons en train d'offrir des opportunités aux autres, alors que c'est eux qui nous donnent l'opportunité de pouvoir s'enrichir collectivement, là.
C'est très bien dit, en effet, de renverser la dynamique et la relation entre les travailleurs et les employés. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été très apprécié, Jasmin.
Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.